Lamentation de Jérémie, chapitre 5, et le verset 17. Vous vous doutez bien que dans Lamentation de Jérémie, ce n'est pas des choses réjouissantes, forcément, mais pourtant il y en a quand même. Mais ce verset, il est très solennel, je trouve. Et je crois que c'est... Je n'avais pas prévu de vous le lire, mais je crois vraiment que c'est quelque chose qu'il faut qu'on lise ensemble. Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 17. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Amen. Vous voyez, un simple verset. Mais quand on le médite, on comprend tout de suite, parce qu'on est dans une époque où on a l'impression justement que les yeux spirituels des personnes sont obscurcis, on a l'impression qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont souffrants, et la raison elle est simple. La montagne de Sion est ravagée. La montagne de Sion, ça nous parle de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu. Ça nous parle de l'Église qui vit véritablement les promesses que le Seigneur lui fait. Et les renards qui se promènent, ça nous parle de toutes ces petites bestioles qu'on laisse traîner dans notre cœur. Excusez-moi l'expression, mais vous comprenez. Je trouve que l'image, elle est parlante d'elle-même. Est-ce qu'il n'y a pas des renards qui se promènent en nous? Et je voudrais cet après-midi qu'on puisse voir trois exemples de personnes qui ont vécu un moment où ils étaient dans une détresse, dans une difficulté, et qui, par la grâce de Dieu, ont été ranimés dans leur esprit. Le premier exemple, c'est l'exemple de Jacob. Jacob, au chapitre 45 de la Genèse. Nous pouvons lire cette histoire. Et vous vous rendez compte que cet homme, il a vécu des choses incroyables avant d'arriver à ce point-ci de l'histoire. Il a vécu des visions de Dieu où il a vu des anges qui montaient, qui descendaient sur une échelle. Il a compris qu'il y avait un accès qui était possible entre Dieu et les hommes. Il a compris aussi qu'il était capable de remporter des victoires avec Dieu dès l'instant où il abandonnait sa force, dès l'instant où il s'appuyait plus sur ses propres forces. À ce moment-là, il était capable de remporter des victoires. Cet homme, il a connu des choses extraordinaires, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa vie, et pendant plusieurs années, pendant plus de 20 ans, je crois, il n'a plus entendu la voix de Dieu. Du moins, ce n'est pas rapporté dans les Écritures. Alors qu'il avait vu des choses incroyables, il avait fait des rêves magnifiques, il avait même vu des anges, et pendant 20 ans, il n'a plus rien vu. Et il se retrouve, donc c'est au chapitre 45, et au verset 21, lui qui croyait que son fils était mort et enterré depuis longtemps, il se retrouve à apprendre la nouvelle que son fils vit, son fils Joseph. Au verset 21, on peut lire « Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit « Ne vous querellez pas en chemin » parce qu'il les connaissait bien. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Auprès de Jacob, leur père, il lui dit « Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Et regardez ce qu'il est dit de Jacob. Le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima et Israël dit « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. » Vous voyez, un homme dont il est dit qu'il avait le cœur qui resta froid. Si le cœur resta froid, vous êtes d'accord de dire que son cœur était froid, s'il l'est resté. Et ça veut dire que ça faisait de nombreuses années que son cœur était devenu froid. Pourtant, il avait connu des grandes expériences avec le Seigneur. Pourtant, il avait vécu des choses incroyables. Mais parce qu'il a vécu aussi une épreuve particulière, il a perdu son fils et il a cru même qu'il était mort. On lui a raconté des mensonges, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas quelque chose que lui avait pratiqué dans le passé? Je ne vais pas dire que c'est la monnaie de sa pièce, parce que Dieu, il n'est pas de ce style-là. Mais Je crois aussi que quand on a un comportement, on peut inculquer certaines choses à nos enfants qui vont imiter ce qu'on a fait avant. Je ne sais pas à quel moment il a rencontré exactement, il a vécu ses expériences avec le Seigneur et ça a changé sa vie. Mais je sais que, en tout cas, ses enfants, ils ont imité l'exemple qu'il avait donné avant. Lui qui était trompeur, il s'était fait passer pour quelqu'un d'autre aux yeux de ses parents. Eh bien, ses enfants ont fait passer ce qui est arrivé à Joseph comme une mort. Ils ont trompé leur père de la même manière que lui avait trompé son père. Et le problème, c'est qu'il avait certaines choses qui étaient dans sa vie qui ont fait qu'il n'a pas pu supporter cette épreuve. Vous vous souvenez de ce moment où les frères de Joseph l'ont jeté dans une citerne, ils voulaient même le tuer tellement ils étaient jaloux de lui, tellement ils avaient de la haine, ils étaient incapables d'avoir de l'amitié pour lui. Et heureusement, Ruben était là et il leur a dit « Non, ne portez pas la main dessus ». Finalement, ils l'ont vendu comme esclave et ils l'ont fait passer pour mort aux yeux de leur père. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette histoire? Il est dit que Jacob, à ce moment-là, il était inconsolable. Et il y a eu beau avoir tous les fils et toutes les filles qu'il avait eues, tous les petits-enfants peut-être qui sont venus essayer de le consoler, il n'y a personne qui arrivait. Il a gardé cette tristesse dans son cœur. Jacob, il était en proie à plusieurs choses qui ont fait qu'il y avait un manque dans sa vie. Et ce soir, je voudrais simplement vous mettre en évidence cette vérité qu'on ne peut pas être ranimé dans notre cœur si le Seigneur ne permet pas qu'il y ait un déclic pour qu'on se rende compte qu'on a besoin d'être ranimé. On a besoin d'être ranimé et Dieu permet souvent qu'il y ait des déclics dans notre vie. Mais pour qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait toutes sortes de circonstances. Là, Jacob, il était, par exemple, lui, il avait beaucoup de choses qui étaient là. On a dit qu'il était inconsolable. On voit qu'il est dans la crainte parce qu'à un moment donné, Joseph, il demande à ses frères qui sont venus le voir qu'ils ne le reconnaissent pas, il demande plusieurs choses et il demande que Benjamin, son jeune frère, vienne en Égypte. Et Jacob, il était dans la crainte, il ne voulait pas que perdre encore un fils. Il ne voulait pas que le frère de Joseph soit également disparu, soit également enlevé. Et il était dans la crainte. Plus tard, il est dit que par dépit, il est devenu fataliste. Il a accepté que, bon, mais de toute façon, si je dois perdre tous mes fils, ben que je les perde. Il était dans cet état d'esprit. Après, il était dans cette incapacité de voir la volonté de Dieu pour sa vie. Pourtant, il avait eu des promesses. Dieu s'était révélé, on l'a dit, et il lui avait donné plusieurs paroles intéressantes. Je crois que ce serait bien qu'on puisse lire au moins une d'entre elles. C'est dans Genèse chapitre 28. Regardez ce que Dieu avait dit à Jacob. Genèse 28, c'est le verset 13. Justement, à ce moment où Dieu se révèle comme celui qui est dans son ciel, mais qui a un accès à Jacob. Genèse 28, 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Est-ce que vous aimeriez que le Seigneur vous dise des choses comme ça? Non? Je crois qu'on aimerait tous que le Seigneur nous dise « Je suis avec toi, je t'abandonnerai pas jusqu'à ce que mes promesses pour toi s'accomplissent. » Mais à un moment donné, parce qu'il a eu une épreuve, le cœur de Jacob s'est endurci, le cœur de Jacob s'est fermé à la grâce de Dieu, le cœur de Jacob s'est totalement refroidi. Et il était incapable de se rendre compte qu'il était en train, le plan que Dieu avait préparé pour lui était en train de s'accomplir. Jacob, il était là, il regardait autour de lui, mais comment je peux être une bénédiction au travers de ma postérité. Mes fils, ils sont là, mais ils ne sont pas meilleurs que les autres. Il n'y a rien qui se passe. Le seul qui valait un peu la peine, eh bien, il est mort. Comment ma postérité peut-elle être une bénédiction autour de moi? Vous imaginez toutes les fois où Jacob, le soir, se retrouvait là et il entendait peut-être les mauvais propos que disaient ses enfants et il voyait leur mauvais comportement. Et toutes les fois où il regrettait. Il n'y avait pas une journée qui se passait sans qu'il regrette son fils Joseph. son fils qui lui promettait tant de belles choses. Et puis, dans son esprit, Joseph était mort. C'était comme si l'espoir qu'il avait était mort. C'était comme si toutes les promesses de Dieu, elles étaient mortes. C'était comme si tout ce que Dieu lui avait dit auparavant, ça ne tenait plus. Il avait totalement le cœur refroidi, totalement incapable de voir la volonté de Dieu pour sa vie. Mais il a fallu un déclic. Et souvent, je dirais même toujours, quand Dieu doit ranimer notre être, il permet qu'il y ait un moment donné où il y a un déclic qui se passe dans notre cœur. On se rend compte qu'il y a plus. On se rend compte, pour qu'il y ait un déclic, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se rend compte que ça ne va pas. Et regardez, on revient au chapitre 45, au verset 27. Au verset 26, la fin du verset 26, c'est « Le cœur de Jacob reste à froid. Pourquoi ? Parce qu'il ne les croyait pas. » Le cœur de Jacob reste à froid parce qu'il était dans l'incrédulité. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Qu'est-ce que c'était ces paroles ? Ben, vous revenez au début du verset, au début du chapitre 45, le verset 5. Juste au début du chapitre, au verset 4 même, quand Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » Regardez comment Joseph y voit les choses. « Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. » Pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Regardez ce qu'il dit. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Est-ce que ce n'est pas des paroles de paix, ça ? Vous imaginez quand même à qui Joseph adresse ces paroles ? Il leur dit, non, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Et j'imagine ces frères qui étaient là, eux qui étaient en haillons, et Joseph qui était là en habit resplendissant, recouvert d'or, dans un palais. Les frères qui étaient là et qui se sont rendus compte que c'était Joseph finalement. Cet homme qui leur faisait peur, qui avait cette autorité, qui avait cette puissance, qui avait ce pouvoir, toute cette richesse. C'était leur frère Joseph qu'ils avaient vendu, qu'ils avaient trahi. Et pourtant, qu'est-ce qu'il leur dit ? Ne soyez pas fâchés d'avoir fait tout ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas grave ce que vous avez fait. Joseph, il avait bien compris que Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. D'ailleurs, il le dira plus tard. Dieu est le Dieu qui est capable de changer le mal en bien. Mais, même quand on a l'impression que ça ne va pas, il faut se rendre compte que le Seigneur est à l'œuvre. Et c'est ces paroles exactement que les frères de Joseph ont pu rapporter à Jacob. Est-ce que vous croyez que Jacob, il aurait cru ses enfants une deuxième fois comme ça ? Rapidement. La preuve, c'est que c'est marqué qu'il ne les croyait pas, parce qu'un jour, il leur avait dit, ton fils, il est mort, il a été déchiqueté par une bête. Et maintenant, il leur disait le contraire, alors ils ne savaient plus sur quel pied danser. Son cœur est resté insensible, mais dès le moment où ils ont commencé à dire ce qui s'était passé vraiment, parce que c'est ça les paroles de Jacob, de Joseph, c'est mes frères m'ont vendu. Mais c'est la volonté de Dieu que ça, Dieu a permis à changer le mal en bien. Dieu a utilisé ce moyen pour que je puisse devenir une bénédiction pour mes frères, pour ma famille. Mais à ce moment, au moment où les frères de Jacob ont dû, les frères de Joseph ont dû en parler à Jacob, ils ont dû dire oui, c'est vrai, on l'a livré. C'est vrai, on l'a vendu comme esclave. Mais regarde ce que Joseph il dit. T'inquiète pas. Hein, il dit que c'est parce que c'était pour que Dieu puisse nous délivrer, pour que Dieu puisse nous permettre de vivre dans son abondance. Et regardez encore la suite, il lui rapporte toutes les paroles et il voit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. 2 choses, il entend la parole et il voit qu'il y avait un convoi qui revenait, mais ce convoi qu'il attendait, c'était ses fils, mais ils étaient bien plus nombreux que ce qu'il pensait. Et quand nous on lit les chars, on a l'impression que c'est la vieille charrette de la campagne qu'on a dans la ferme du coin. Mais à l'époque, les chars qui venant d'Égypte, c'était comme si c'était les limousines qui envahissaient un bidonville. Il faut s'imaginer cette scène-là. C'était des chars de Pharaon en plus, donc ils étaient sûrement recouverts d'or, hyper bien designés. Et c'était quelque chose d'incroyable. Et tous les passants du coin, tous les gens du village, quand ils ont vu ça, avec toutes les richesses, l'abondance de... Parce que c'était quand même la famine dans le pays. Quand ils ont vu ça se rendre chez Jacob, ils n'ont pas cru leurs yeux, tellement c'était magnifique. Et quand Jacob, il a commencé à voir qu'il y avait des paroles, il a commencé à comprendre la situation. Il a commencé à voir que Joseph, il avait fait également tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse revenir avec lui. Alors c'est à ce moment-là que son esprit s'est ranimé. Mais quel a été le déclic? Tout simplement, Jacob s'est rendu compte qu'il a été incrédule. Jacob s'est rendu compte que tout ce que Dieu avait promis, il ne le croyait plus. Il s'est rendu compte que son cœur s'était refroidi. Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème en lui. Il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et quand on est dans ces moments-là où on se rend compte que ça ne va pas, combien c'est le meilleur moment pour revenir devant le Seigneur et dire « Seigneur, j'ai besoin que tu ranimes mon esprit ». Et vous savez que Joseph, dans la Bible, c'est un type de Christ, c'est un modèle de Christ. Et est-ce que ce n'est pas bon, quand on a le cœur refroidi, de lire la parole de Dieu ? De lire toutes les promesses, toutes les paroles de paix, les paroles d'amour, les paroles de joie, les paroles que le Seigneur voudrait nous donner pour renouveler notre espérance en lui. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour que notre cœur soit à nouveau enflammé? Est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen de se rendre compte que Jésus est celui qui nous a donné le meilleur accès pour être ramené vers le Père? Le plus beau char au monde, c'est celui qui nous amène dans la présence de Dieu. Et ce char, entre guillemets, c'est la mort de Jésus à la croix. Il a ouvert le chemin. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Jésus est celui qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Et le message de Dieu pour Jacob à ce moment-là, c'est lequel? C'est tout ce que j'ai promis va s'accomplir. Tout ce que je t'ai promis va s'accomplir. Oui, tu croyais que ta postérité n'allait pas être en bénédiction? Mais regarde où en est Joseph. Et on peut lire au verset, c'est au verset 31. Du chapitre 46, c'est le moment où Jacob arrive en Égypte. Genèse 46, verset 31. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. » Alors, non pardon, je me suis trompé de verset. Voilà, c'est au verset 28. Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph attela son char, y monta pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. » Il y a une émotion incroyable de ce papa qui retrouve son enfant. Ça faisait plus de 20 ans qu'il avait disparu, qu'il avait mis une croix dessus. Mais parce que ce n'était pas la volonté de Dieu que Joseph meure, Dieu a permis qu'il se retrouve. Et vous savez, même s'il dit cette phrase, « Ah, maintenant je peux mourir en paix », je résume, hein, vous savez qu'il a quand même vécu 17 ans encore en Égypte. Donc, c'est pas parce qu'on prie comme ça, il a dit sous le coup de l'émotion, mais Dieu ne voulait pas qu'il meure à ce moment-là. Et quand on lit toute la suite de la vie de Jacob, on se rend compte que c'était quelqu'un qui vivait maintenant dans une relation particulière avec le Seigneur. On le voit à plusieurs moments adorer. Et jusqu'à son dernier souffle, il était en train d'adorer, même appuyé sur son bâton. Il n'arrivait plus, il n'avait plus la force de tenir sur ses jambes, mais appuyé sur son bâton, il était en train d'adorer son Dieu, de se prosterner devant lui, de dire « Seigneur, je réalise maintenant que même si moi je ne comprends pas ce qui se passe, je crois que toi tu es capable d'accomplir tes promesses. Tout ce que tu m'as dit, c'est accompli Seigneur. Je crois que toutes les fois où j'ai un manque dans mon cœur, si je viens dans ta présence avec sincérité, avec honnêteté, tu es capable de ranimer mon esprit. Tu es capable de faire tout cela. » Parce qu'on a dit qu'il était fataliste, on a vu qu'il était dans la crainte, mais dès l'instant où ça s'est passé, dès l'instant où son esprit s'est ranimé, toutes ces choses ont disparu. Il était plus fataliste. Tout de suite après, il dit, mon fils vit, alors il faut que j'aille là-bas. Il fait des projets, alors qu'il était fataliste. Ah ben, de toute façon, c'est comme ça. Bon, alors, tant pis. Non, non, maintenant que son esprit est ranimé, il fait des projets pour le Seigneur. Maintenant que mon fils vit, je veux aller le voir. Je veux faire le voyage. Je veux être de la partie. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur désire qu'on vive, qu'on ait cet véritable esprit? Je ne voudrais pas, cet après-midi, faire tout ce que j'ai prévu. Je voudrais directement aller à ce passage de 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Ce deuxième exemple, Je vous laisse le soin de regarder l'exemple de Samson qui, à un moment donné, a eu besoin d'être ranimé. Parce qu'il y avait quelque chose qui était là dans sa vie, qui faisait qu'il était dans un manque de quelque chose. Le Seigneur a pourvu et son esprit s'est ranimé. Mais nous allons lire maintenant dans 2 Timothée, chapitre 1er, un conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er, on peut lire à partir du verset 5. C'est Paul, à la fin de sa vie, qui écrit ces choses à Timothée. Il sait qu'il est en prison, il sait qu'il ne va pas pouvoir sortir, et il lui dit les plus beaux conseils qu'il peut lui dire. « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, dit de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Amen. » Un conseil qu'on a déjà souvent entendu. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Et je pensais à cette histoire que je lisais il y a, dans la semaine également. C'était un chrétien qui avait vécu quelque chose d'incroyable avec le Seigneur. Et c'était une expérience particulière pour lui qui l'avait marqué. Et il appelait la bonne bénédiction. Et alors à tous ceux qui passaient, tous ceux de l'église, il leur parlait de sa bonne bénédiction. Il leur racontait sa bonne bénédiction à toute sa famille, presque à tous les repas. Il leur racontait la bonne bénédiction jusqu'au moment où même les enfants, ils étaient capables de dire les mots qu'il allait employer tellement il avait raconté. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, ça commence à faire, je vais l'écrire sur un papier, je vais la garder en souvenir, mais je vais me taire. Et puis un jour, il y a un gars quelqu'un qui est de passage dans l'église, qui est invité, et alors il se dit, tiens, cette personne est nouvelle, je vais aller lui raconter ma bonne bénédiction. Alors il dit à sa fille, ma fille, va chercher ma bonne bénédiction dans la table de chevet ou dans la cave là-bas. Et la fille, elle revient avec des morceaux de papier. Plein de morceaux de papier, parce qu'il ne restait que ça de sa bonne bénédiction. Et le papa, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la fille, elle dit, sûrement que c'est des rats qui ont mangé ta bonne bénédiction. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie sur une bénédiction qu'ils ont reçue. Alors c'est très bien de recevoir une bénédiction, c'est pas ça le point. Le point, c'est de se dire, est-ce que je vis sur les acquis du passé? Est-ce que je vis sur les choses que j'ai vécues dans le passé, mais qui m'ont fait du bien, mais aujourd'hui, je n'ai plus cette communion intime avec le Seigneur? Ça me fait penser à ce peuple d'Israël, à qui Dieu disait, vous êtes creusé des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau, alors que moi, je suis une source d'eau vive. Vous pourrez venir jour après jour dans ma présence, être rafraîchi, être renouvelé, mais vous préférez vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Venez à moi. Jésus l'a dit, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et est-ce que ce n'est pas un danger justement de vivre toute notre vie sur les bénédictions du passé? Le Seigneur nous appelle à vivre aujourd'hui. Ce qu'il veut faire dans notre vie, il veut le faire aujourd'hui. Si on a un besoin, c'est aujourd'hui qu'il veut le régler. S'il y a un manque dans notre vie, si on se rend compte qu'on est incrédule, si on se rend compte qu'on est inconsolable, si on se rend compte qu'on est sans espoir, qu'on a mis une croix sur quelque chose, c'est aujourd'hui qu'il faut le régler. Dieu, il veut ranimer notre esprit aujourd'hui. Mais vous voyez dans ce passage qu'on vient de lire, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Il y a aussi notre part à nous. Dieu, il prépare tout le contexte pour que ça se passe, mais il y a notre part à nous de le faire. Et quand on lit ce passage, on se rend compte que Paul n'est pas en train de réprimander Timothée parce que Timothée était un garçon timide. C'est pas ça le passage. Mais Paul, il est, comme je le disais, à la fin de sa vie. Paul, il est là, dans sa prison, il sait qu'il va pas s'en sortir, il sait qu'il va bientôt mourir, et il est en train de dire les plus beaux conseils qu'il peut dire à Timothée. Et il essaye de trouver, de peser chacun des mots. Le Saint-Esprit est là, en train de conduire sa main, alors qu'il est en train d'écrire. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Et quand il est question de ranimer le don de Dieu, c'est question d'un feu qui est avec des charbons ardents et qu'il y a des cendres qui commencent à prendre le dessus, vous savez. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut un bon coup de soufflet pour que ça reparte. Il faut raviver la flamme. Il faut ressouffler sur les charbons ardents pour que ça puisse à nouveau être embrasé. C'est exactement cette image qui se passe là. Et Paul est en train de dire à Timothée, toutes les fois où tu vas voir dans ton cœur qu'il y a comme des cendres qui commencent à venir, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu ailles te placer dans la présence de Dieu et que tu laisses le souffle de Dieu embraser à nouveau ta vie. Et si, par exemple, dans ton cœur, tu discernes qu'il y a de la crainte, si dans ton cœur, tu discernes qu'il y a de la honte, c'est ce qu'il est en train de lui dire juste après, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu ailles dans la présence de Dieu. Si tu te rends compte, par contre, que dans ton cœur, il y a de l'amour, il y a de la force, il y a de la sagesse, alors tu n'as pas besoin de ranimer. Tu es déjà en train de le faire continuellement. Mais si tu te rends compte que tu es un peu timide, si tu te rends compte que tu es un peu faible, si tu te rends compte que tu manques de sagesse, à ce moment-là, tu as besoin de venir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, souffle sur ma vie, que ton souffle divin puisse embraser à nouveau mon cœur et que je puisse brûler de ce zèle. Vous savez que le meilleur combustible, le seul combustible d'ailleurs qui peut entretenir le feu dans notre cœur, c'est celui de notre chair. Toutes les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, toutes les choses qui sont l'inverse de ce que Dieu veut pour nous, c'est ces choses-là qu'il faut placer sur le feu. C'est ces choses-là qu'il faut abandonner. Il faut dire, Seigneur, tu vois ça, tel comportement, telle attitude, telle pensée, je veux la placer sur l'autel. Et je veux que ça disparaisse. Et alors qu'on met ces choses sur l'autel, le feu, il peut brûler à ce moment-là. Et Dieu peut nous permettre d'être de plus en plus saints, de plus en plus purs, de plus en plus justes, de marcher dans la justice comme on l'entendait ce matin, parce qu'on accepte de renoncer à ces choses. Vous savez, la semaine dernière, on a fait une réunion avec les jeunes, on a fait la réunion de jeunesse, mais après on a pris un temps de prière particulier pour chercher la face de Dieu. C'était le but, chercher la face de Dieu. Et quand, je me rends compte de plus en plus que quand on cherche vraiment Dieu, on le trouve. Il n'y a pas eu de choses incroyables qui se sont passées, mais dans mon cœur, j'ai reçu une parole précise, quelque chose de très précis. Et deux choses que le Seigneur me montrait, et alors que je priais, Seigneur, je veux que tu me ranimes, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur, je veux grandir. Le Seigneur, il me montre juste deux choses. Vraiment, c'est des choses bêtes, mais je ne vais pas vous le dire parce que c'est très personnel, pour ne pas vous donner d'exemple, parce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit doit vous parler à chacun d'entre vous. Mais je savais, pour moi, que ces choses-là, il fallait que je les règle, afin que je puisse faire un progrès avec le Seigneur. Encore des progrès. Et je crois que si nous sommes des personnes qui veillons à écouter la parole de Dieu et à mettre en pratique tout ce qu'il nous demande de faire, je crois qu'à ce moment-là, notre esprit va être obligé d'être ranimé dans la présence de Dieu. Je crois que si nous nous occupons de chasser tous les renards qu'il y a dans notre cœur et que nous occupons de restaurer le sanctuaire de la présence de Dieu dans notre vie, alors je crois que les cœurs souffrants, ils vont devenir des cœurs joyeux. Je crois que les yeux obscurcis, ils vont commencer à s'ouvrir, ils vont commencer à pouvoir voir véritablement la main de Dieu, la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Moi, je crois que c'est à nous de ranimer notre cœur, de ranimer notre esprit, de dire « Seigneur, je reconnais, peut-être que je suis dans le cas dont Paul parle, j'ai un esprit de timidité, j'ai pas un esprit de force, j'ai pas un esprit d'amour, peut-être que je manque de compassion pour les âmes autour de moi, peut-être que j'ai honte du témoignage à rendre, je ne sais pas. En tout cas, Seigneur, je me rends compte qu'il y a un manque dans mon cœur. Et je me souviens de ces moments où, alors que j'étais étudiant, j'avais vécu de belles expériences, j'avais des bonnes bénédictions, je pouvais écrire plein de bonnes bénédictions sur des papiers, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, mon cœur était en train de se refroidir. Et je me souviens qu'à l'instant où je me suis rendu compte de ça, je suis allé dans la présence de Dieu, j'ai dit « Seigneur, que tu puisses à nouveau souffler dans mon cœur, que tu puisses à nouveau ranimer le courage. » Ça ne voulait pas dire que j'allais plus à l'église, que je lisais plus la Bible, que je priais plus. Bien au contraire, je continuais tout cela, mais je sentais qu'il y avait... Il y avait un certain refroidissement qui était en train de prendre place. Et je suis allé vraiment dans la présence de Dieu et j'ai dit, Seigneur, fais ton œuvre en moi. J'ai commencé à repenser à la croix, j'ai commencé à réfléchir à nouveau de tout ce que le Seigneur avait dû subir pour moi, pour que je puisse être accepté dans sa présence, que je puisse être son enfant. Et alors que je faisais ces choses, j'ai senti tout simplement l'amour de Dieu envahir mon cœur. J'ai senti que ce qu'il avait déposé au fond de moi, eh bien, il voulait encore le garder, il voulait maintenir le feu, et le Seigneur, c'est pas lui qui veut éteindre le feu dans notre cœur. Il a dit que même s'il n'y avait qu'une étincelle, c'est pas celui qui éteint l'étincelle. Il est celui, au contraire, qui va la faire grandir, l'allumer à nouveau, la faire brûler encore plus davantage, encore davantage dans ce monde. Est-ce que nous avons cette étincelle du témoignage dans notre vie? Ce soir, je voudrais pas que vous mettre un poids particulier sur vos épaules. Je voudrais que le Saint-Esprit, simplement, au travers de tout ce qu'on a lu, partagé, que le Saint-Esprit puisse appuyer et montrer ce qu'il y a de manque en nous. Seigneur, tu vois, moi je manque de courage pour témoigner. Moi je manque de force. Moi je manque d'amour. Moi je manque de sagesse. Sagesse, c'est aussi équilibre. Seigneur, je manque d'équilibre. Peut-être que je suis quelqu'un qui parle beaucoup de toi, mais qui ne passe pas assez de temps à la prière pour avoir les bonnes paroles, la bonne intelligence dans ce que je vais dire. Avoir des paroles à propos. Vous savez, il y a des personnes qui, eux, qui n'ont pas honte du témoignage à rendre, mais par contre qui le font tellement de manière pas intelligente qu'elles mettent en danger les personnes à qui elles parlent, parce qu'elles ne veulent plus les entendre. Seigneur, donne-moi cette sagesse. Donne-moi cet équilibre. Ce soir, est-ce que nous allons laisser le Seigneur simplement faire son travail dans notre cœur? Est-ce que nous sommes de ceux qui se disent, Seigneur, oui, je reconnais que j'ai besoin que tu ranimes mon cœur, que tu ranimes mon esprit? Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage? Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est son Saint-Esprit qu'il nous a donné. Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a donné depuis que Jésus est ressuscité, depuis que Jésus est monté dans son ciel. Dieu lui a donné le Saint-Esprit afin qu'il le répande sur tous ses enfants. Maintenant, c'est à nous de le saisir par la foi. C'est à nous de nous approcher de lui. C'est à nous de dire, Seigneur, oui, je reconnais que j'ai besoin que mon cœur soit ranimé. Je reconnais peut-être mon incrédulité. Je reconnais peut-être mon fatalisme. Je reconnais mon manque d'espoir. Je reconnais quelque chose. Mais Seigneur, je reconnais que si je laisse ces choses être dans ma vie, si je laisse les cendres s'occuper du feu qui est dans mon cœur, je ne vais pas pouvoir faire de progrès avec toi. Alors Seigneur, dans ces moments, alors que nous allons prier, que ton souffle puisse véritablement envahir ma vie et embraser à nouveau mon cœur de ton zèle, de ton amour, de ta paix, que je puisse être ce serviteur qui va mettre tout son cœur à te servir, à t'obéir, à faire ce que tu lui demandes, Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Éternel, merci parce que ton ruisseau il est plein d'eau, c'est-à-dire que jour après jour, tu es capable de pourvoir à tous nos besoins. Tu vois que cet homme Jacob, il était dans la famine et tu as répondu à ses besoins, il était dans la détresse inconsolable et tu lui as donné la joie de retrouver son enfant, il était dans toutes sortes de difficultés, il était dans l'incrédulité même et tu lui as donné de croire à nouveau, de mettre son espérance en toi, il était dans celui qui avait oublié les promesses, Seigneur tu as été celui qui lui a rappelé les promesses, une parole de toi Seigneur et notre cœur est changé, une parole de toi Seigneur et notre cœur est ranimé à nouveau. Seigneur, tu vois cet après-midi les personnes qui sont là, qui ont besoin que leur cœur soit ranimé, tu vois les personnes qui sont dans toutes sortes de difficultés, qui n'ont plus d'espoir par rapport à la vie Seigneur, qui n'ont plus d'espoir par rapport à des situations dans leur cœur Seigneur, qui n'ont plus d'espoir par rapport à leur foyer peut-être, qui n'ont plus d'espoir par rapport à l'entente avec leurs enfants. Seigneur, toi tu es le Dieu qui est capable de ranimer les cœurs. Oui Seigneur, tu nous as dit que tu habitais dans les lieux élevés, mais que tu étais celui qui allait ranimer les cœurs contrits, les cœurs qui s'humilient devant toi. Seigneur, ce soir, tu vois les cœurs qui s'humilient devant toi, les cœurs qui viennent devant toi en toute sincérité et qui crient à toi de tout leur cœur. Éternel, que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu accomplis. Merci pour ton Saint-Esprit aussi, que tu répands sur tous tes enfants, sur tous ceux qui invoquent ton nom, sur tous ceux qui te cherchent. cherche, Seigneur. Oui, Seigneur, que dans ces moments encore, tu puisses faire ton œuvre par ton esprit dans les cœurs. Tu vois aussi les personnes qui peut-être te découvrent cet après-midi. Merci parce que tu es le Dieu qui nous a donné l'accès pour être amenés à toi dans ta présence, Seigneur. Oui, tu as déployé le meilleur moyen pour que nous puissions venir à toi. Tu as donné ton Fils. Tu as permis qu'il meure à la croix pour nous, pour nos péchés, afin que, alors que nous allons nous repentir, alors que nous allions demander pardon, tu aies effacé notre péché, Seigneur. Merci pour tout cela. Tu bénis ces personnes aussi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, encore dans cet après-midi, ranimer le cœur de chacun. Tu vois, ceux qui ont besoin d'avoir cette ferveur dans le témoignage, ceux qui ont besoin d'avoir cette compassion pour les âmes autour d'elles, ceux qui ont besoin d'avoir cette sagesse, Seigneur. Mais c'est ton esprit qui les donne sans retenue, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui pourvoit, qui est un Dieu d'abondance aussi, Seigneur. Dans ces moments, que ta vie se répande sur chacun de tes enfants et que nous puissions, chacun pour notre part, réaliser que tu es ce Dieu qui ranime les cœurs. Toutes les fois où nous aurons un déclic, où nous réaliserons que nous sommes en manque de quelque chose spirituel, Seigneur, que tu puisses nous permettre d'aller dans ta présence et que nos cœurs soient ranimés devant toi. Merci, Éternel, pour ce que tu fais. Amen.